Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
On change de partie du monde, Xavier, retour en Europe et en Espagne. Bonjour à vous.
Rebonjour Émilie et bonjour à vous aussi Barbara Loyer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue si tôt en studio. Vous êtes politologue, chercheur à l'Université Paris 8 et directrice de l'Institut français de géopolitique, évidemment spécialiste de l'Espagne. Espagne pour laquelle c'était une semaine mouvementée puisqu'après un revers aux élections régionales ce week-end, hier, bien ce sont plus de la moitié des membres de la direction du Parti socialiste espagnol, le PSOE, qui a démissionné. Début de crise ouverte donc pour la gauche espagnole et nouvel épisode dans la crise politique et parlementaire dans laquelle est plongé le pays depuis 9 mois. 9 mois et une semaine sans gouvernement, puisqu'en décembre 2015, une première élection législative a vu les partis traditionnels perdre leur majorité. Malgré plusieurs tentatives cette année, aucune coalition assez large n'a pu être formée. Il a fallu de nouveau convoquer des élections le 26 juin. Là encore, l'été s'est passé sans solution. Il y a 2 semaines, le chef du Parti populaire à droite, donc Mariano Rajoy, a échoué pour la 2e fois à obtenir l'investiture. Alors l'élection de 2015 avait aussi été marquée par l'entrée de 2 nouvelles formations dans le système bipartisan droite-gauche, c'était Ciudadanos et Podemos, mais les facteurs de blocage sont multiples, on l'a vu cette année, et puis si aucun gouvernement n'est possible, il va donc sans doute falloir organiser des 3e élections législatives avant la fin de l'année. Devront-elles se tenir ou une majorité claire se dégagera-t-elle avant? Et si elles se tiennent, signeront-elles la fin de ce quadripartisme qu'on pourrait dire expérimental, ou bien les partis traditionnels seront-ils toujours dépassés? En gros, quelle est la gravité de la crise en Espagne? Barbara Loyer, peut-être avant de parler de ces élections régionales et de ce qui arrive au PSOE, on pourrait revenir sur la situation de la fin de l'été où Mariano Rajoy, le chef du Parti populaire, donc à droite, était en passe de demander pour la 2e fois l'investiture au Parlement, investiture qu'il n'a pas obtenue.
Oui, c'était une situation un peu particulière puisque lors de la première élection, le Parti socialiste avait demandé l'investiture en ayant signé un accord avec le nouveau parti centriste. Et c'est l'extrême gauche qui a refusé d'apporter ses voix. Par conséquent, ils n'ont pas eu la majorité suffisante. Puis ensuite, donc du coup, ils sont repartis aux élections. Et là, ce parti centriste Ciudadanos a négocié avec le Parti populaire, puisque le Parti populaire avait gagné en voix et en siège entre les 2 élections. Et ils ont accordé beaucoup de points sur lesquels le Parti populaire a donné son accord. Un certain nombre de ces points avaient d'ailleurs été négociés avec le Parti socialiste. Donc on avait vraiment une situation de compromis. Et là, cette fois-ci, c'est le Parti socialiste qui a refusé de s'abstenir, puisqu'il suffisait de s'abstenir pour qu'on puisse réunir une majorité simple lors du 2e vote d'investiture.
Voilà, c'est ça.
Ça a constitué le blocage.
Et il manquait toujours 5 voix à Mariano Rajoy, qui n'en avait que 170 sur les 175 nécessaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il a toujours, avant cette date du 31 octobre, date à laquelle le roi devrait convoquer de nouvelles élections s'il n'y a pas de nouveau gouvernement, est-ce qu'il a toujours une chance d'obtenir une investiture ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini, la procédure est passée?
Non, il pourrait en obtenir une et c'est pourquoi la situation au Parti socialiste est fondamentale puisque le secrétaire général du Parti socialiste se refusait absolument à envisager de s'abstenir. Et il y a eu un coup d'état légal, on va dire, à l'intérieur du Parti socialiste hier. C'est du fait de la démission de la moitié du comité exécutif. Le secrétaire général peut être suspendu samedi, pourrait être suspendu samedi, et une direction provisoire mise en place qui pourra, à ce moment-là, mettre en place de nouveaux débats pour savoir si le Parti socialiste pourra ou non s'abstenir et permettre une élection à la majorité simple de Mariano Rajoy.
Et justement, on va reparler de ces prochaines hypothèses. Cependant, justement, c'est ce qui arrive au Parti socialiste espagnol en ce moment. Cette déchirure qu'on a vu intervenir hier, elle intervient aussi après les élections régionales. Donc, il y a eu le week-end dernier, élections régionales au Pays Basque et en Galice, ce qu'on appelle les communautés autonomes, où on a vu à la fois le Parti socialiste en sortir affaibli et le Parti populaire en sortir renforcé. Ça, c'était en Galice. Il a obtenu 45 sièges sur 71, donc majorité absolue. Et puis le Parti socialiste affaibli, je le disais, il est 5e, donc aussi derrière le Parti populaire au Pays Basque. Qu'est-ce que ça signifie, ces élections dans des communautés autonomes? Elles sont symboliques en ce moment ou elles sont marginales finalement? Parce qu'on en a beaucoup parlé, disons.
Elles sont du point de vue du nombre de votants, ce sont pas des communautés centrales, mais il se trouve que c'était les premières élections et ça permettait d'avoir un test sur ce que pourrait donner un troisième tour des législatives. Entre les deux législatives qui ont eu lieu, le Parti populaire s'est renforcé et les sondages prévoient que s'il y en avait une troisième, on pourrait arriver à une majorité nettement, voire absolue, du Parti populaire. Donc retour à la case départ, qui fait que toute l'évolution de ces dernières années depuis 2014 et l'apparition de nouveaux partis pour rompre le bipartisme serait... risquerait d'être gommé. De ce point de vue-là, ces élections étaient très importantes. Elles étaient aussi importantes pour savoir quelle serait la main, s'il y aurait une nouvelle marge de manœuvre et de négociation au sein du Parlement espagnol, parce qu'il faudrait que dans ces régions, il y ait aussi des accords de gouvernement.
Importante pour estimer donc les chances de victoire du Parti populaire. Ce Parti populaire qui avait perdu presque, je crois, 60 sièges aux élections législatives de 2015 par rapport à sa position précédente au Parlement. Donc il était vraiment en difficulté. Il était en difficulté aussi parce qu'il avait souffert d'un déficit d'image. Il y avait eu de nombreuses affaires. Bon, il y avait aussi la question de l'austérité en Espagne. Ça veut dire que cette année, ça n'a pas trop compté pour lui finalement, ce déficit d'image, s'il a réussi aujourd'hui à regagner une partie de la confiance des électeurs, le Parti populaire.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il a regagné une partie de la confiance des électeurs. Le déficit d'image, comme vous dites, il est profond et très grave. Les affaires de corruption continuent d'apparaître. La question de la corruption en Espagne est extrêmement grave et le Parti populaire est vraiment très rétif pour ne pas dire plus sur le fait de faire le ménage en son sein et de changer les règles du jeu pour que ça n'arrive plus. Mais en revanche, ce qui semble assez clair, c'est que les Espagnols veulent une stabilité, ne veulent pas de crise économique de nouveau qui pourrait être équivalente et aussi grave que celle de la Grèce. Je pense que l'exemple de la Grèce est un repoussoir. Et surtout, il y a un défi indépendantiste catalan qui est un véritable risque géopolitique pour l'Espagne. Et donc les Espagnols, les électeurs espagnols veulent un État, un gouvernement central solide, cohérent.
Et d'ailleurs, on l'a vu hier avec le président du Parlement catalan, Carles Puigdemont, président qui a demandé, qui a annoncé l'organisation d'un référendum en 2017 sur l'indépendance de la Catalogne. Ça, c'est pour le risque politique. Vous aviez évoqué la question de la stabilité peut-être économique. Là-dessus, on dit souvent que l'Espagne est sans tête, un peu en roue libre ou en pilotage économique, automatique, et justement sur le plan économique, on n'a pas l'impression que cette situation ait beaucoup nuit, puisque la croissance est là pour l'instant, un certain nombre d'emplois sont revenus, le chômage a baissé, je crois qu'on est autour de 300 000 demandeurs d'emploi en moins, 200 000 emplois créés, 0,8% de croissance, donc ça n'a pas trop nuit sur le plan économique.
On est dans une situation de gouvernement provisoire, donc le gouvernement sortant continue de gouverner. Quand il y a des ministres qui s'en vont, il y en a eu trois qui sont partis, ils n'ont pas le droit d'en nommer plus, ils ne peuvent pas voter de loi, ils ne peuvent en particulier pas voter le budget. Or, la Commission européenne demande d'avoir des indications sur le budget dès le 15 octobre. Sinon, il y aura des transferts qui seront interrompus, voire des amendes. Enfin, si vous voulez, ça va bien pendant quelques mois, mais la situation pourrait se compliquer et je pense que les électeurs espagnols craignent cela.
Avec le risque de la fameuse amende du côté de l'Union européenne des 2% du PIB si le déficit budgétaire est excessif, d'où l'intérêt de voter le budget rapidement.
Oui, et puis de toute façon, pour que les transferts européens vers l'Espagne s'enclenchent, il faut qu'il y ait un projet de budget.
Et puis dernière chose très rapidement, mais la semaine dernière dans El País, il y a un certain nombre de diplomates espagnols qui ont publié une tribune, je crois, où ils parlaient de l'Espagne en tant que canard boiteux, justement, puisque l'Espagne aujourd'hui n'a plus de poids diplomatique, il y a des traités en souffrance, un certain nombre des marchés qui ne se font pas. Ça, c'est un véritable risque et c'est quelque chose dont sont conscients les partis politiques dont ils parlent entre eux.
Non, parce que la place de l'Espagne dans le monde et son influence est assez relative et que ce qui fait vraiment débat en Espagne, c'est la question interne et notamment la question séparatiste. Vous avez quand même la moitié du Parlement catalan qui est en train de s'organiser pour construire les organes d'un État qui se veut indépendant.
C'est ça, donc à suivre donc pour Madrid et pour l'Espagne le 31 octobre, à voir si un nouveau gouvernement est formé, sinon dissolution du Parlement. Et puis pour la question catalane, ça se passera en 2017. Merci beaucoup en tout cas pour ce matin, Barbara Loyer, politologue, chercheure à l'Université Paris 8 et directrice de l'Institut français de géopolitique.
Merci.